C'est maintenant que je suis comme plus portée à lire ses livres. C'est maintenant. Puis morte, c'est maintenant qu'elle m'intéresse. J'avais toujours l'impression que Gabrielle Leroy avait vécu longtemps, longtemps dans l'ouest du pays. Non, elle a vécu ici.
Gabrielle a choisi Québec comme ville pour y vivre.
Mais Gabrielle Leroy est étudiée dans les écoles. La canadienne française, parce que Margaret Atwood puis Joyce Carol Oates, oui, c'est la plus connue. Pendant des années, elle ne faisait qu'écrire. Elle devait être assez timide, elle devait être... Elle effrayait pas tellement avec les gens, j'ai l'impression.
Elle avait des yeux fantastiques.
Alors, je connaissais de réputation Gabrielle Leroy. Je n'avais jamais vu ses grands yeux verts.
Il y a deux, trois écoles qui s'appellent les écoles Gabrielle Leroy. Il y a une station de métro Gabrielle Leroy. Il y a un monde juste à l'entrée de Petite-Rivière. Là, il nous reste une chose qu'on n'a pas réussi à faire, c'est d'avoir un thème Gabrielle Leroy, mais on l'aura sûrement un jour.
Émotion et souvenirs, détresse et enchantement, Gabrielle Leroy. Gabrielle Leroy naît en 1906 à Saint-Boniface, province du Manitoba, Canada. D'abord institutrice dans des coins isolés pendant 8 ans, elle réussit à partir pour l'Europe en 1937 et y publie ses premiers articles. Puis, elle s'établit à Montréal. Elle écrit alors son premier roman, Bonheur d'occasion, qui lui apporte succès et prix Femina en 1947. Suivent 30 ans de vie calme et discrète. Gabrielle Leroy a publié 17 romans, dont 7 disponibles chez Flammarion. C'est presque l'unique cas d'un écrivain canadien de langue française à être traduit en anglais et surtout à être aimé dans l'ensemble du pays, francophone et anglophone réunis pour une fois. Gabrielle Leroy meurt à Québec en 1983. Anne-Claire Poirier, cinéaste.
Quand j'ai lu Bonheur d'occasion, c'était un vrai livre. Un vrai livre comme les autres livres avec lesquels j'avais tellement de bonheur. C'était quand même l'époque où moi j'avais découvert Camus, Gide, la grande époque que j'appelle, peut-être parce qu'à cause de l'âge que j'avais, mais de la littérature française, et de trouver une femme qui était de ma race et qui parlait d'un milieu que je connaissais, qui était Montréal, d'une façon aussi, avec autant de talent, avec autant d'amour aussi, a été une révélation pour moi. C'était un choc de fierté, Gabrielle Leroy, en même temps qu'un choc amoureux pour beaucoup de Québécois, je pense. Après ça, bon, il y a eu ses nouvelles, elle était originaire, bon, un choc et un... En tant que Québécois, et pourtant elle n'est pas québécoise, elle vient de l'Ouest, mais la francophonie se ressemble au Canada. Je pense que les gens de l'Ouest comprennent quand on dit ça, que c'est en tant que Québécois, je me sentais fière. Il y avait aussi à cette époque-là que j'habitais chez Cécile Chabot, qui également écrivait, mais dans une toute autre ligne, elle écrivait des poèmes et de la littérature pour enfants. Et elle connaissait Gabrielle Leroy. Et pour moi, c'était une espèce de miracle de parler avec Cécile Chabot, qui, elle, connaissait très bien Gabrielle Leroy, qui était une amie à elle. Bon, mais c'était la première personne canadienne, je pense, par qui j'ai su. Qu'au Canada, on pouvait aussi écrire et en faire un métier. C'est très difficile à comprendre pour des gens qui ne l'ont pas vécu, mais le cordon, il n'était pas rompu avec la France, sur le plan, surtout sur le plan culturel. On était d'une part dépendant économiquement d'une partie du pays ou de notre voisin, et culturellement entièrement dépendant de la France. Et quand je dis que pour moi, la littérature francophone n'était que française, c'est que c'était une réalité. Je le pensais sérieusement. Je ne croyais pas que c'était pensable qu'une Canadienne francophone puisse devenir une vraie écrivain. Je pensais que c'était une chose dont nous étions incapables. Et quand on dit que la littérature au Québec, c'est d'abord conjugué au féminin, je le crois. Et je pense que les femmes ont su établir une littérature francophone au Canada avant les hommes, même si des hommes avaient écrit avant.
Cette heure hésitante entre la nuit et le jour m'a toujours ensorcelée. Elle m'appelait. Elle m'appelle encore comme un rêve où vont se dénouer nos tourments. J'ai déjà marché 2 heures d'affilée, sans m'en apercevoir, en route sous le ciel obscur vers un dernier rougeoiement de l'horizon, comme si j'allais y trouver la réponse à ce qui nous hante depuis la naissance. Et ce soir-là, enivrée peut-être encore plus que maintenant, car si jeune et portée au rêve, j'allais à travers l'heure douce, tenant par la main pour les rassurer, Lucien et Lucienne, précédés de peu par André. Et il me semblait que nous montions infailliblement, les 3 enfants et moi, vers le bonheur invisible encore, mais à coup sûr, promis, sain et sauf, à nous attendre non loin. Remontant une légère dépression, nous fûmes atteints par une dernière flèche de lumière lancée bas à partir de l'horizon. André en fut frappé en plein visage. Et je découvris avec étonnement la couleur étrange et magnifique de ses yeux. Une feuillée de printemps traversée de soleil. Le silence nous enveloppait toujours, non pas oppressant comme lorsqu'il dit l'absence de vie, mais tout gonflé d'une révélation heureuse qui est sur le point d'être faite. Et alors, dans les chaumes dorées, éclata au loin un sonore chant glougloutant. J'arrêtai d'un geste les petits, posai l'autre main, je ne sais pourquoi, sur l'épaule d'André et dis « Écoutez, prenons le temps d'écouter l'alouette des prés. »
François Ricard, universitaire et fils spirituel de Gabriel Roy.
Je revenais d'Europe, je revenais d'un séjour de 2 ou 3 ans en Europe. Je suis québécois de naissance, mais je connaissais assez peu la littérature québécoise. J'avais fait des études de littérature française. Et à mon retour, donc, je cherchais un peu des écrivains québécois qui pouvaient m'intéresser. Je suis tombé sur l'œuvre de Gabriel Roy qui, c'était normal, c'était pas du tout une découverte. Gabriel Roy étant au Québec et au Canada, un des écrivains les plus importants, un des écrivains les plus primés, considéré sans aucun doute presque comme l'incarnation de la littérature canadienne et comme un écrivain québécois de toute première importance. Donc, je me suis mis à lire Gabriel Roy, j'ai été absolument séduit par son œuvre. Gabriel Roy utilise un niveau de langage qui est tout à fait accessible à n'importe quel lecteur francophone. Elle a également une thématique qui, tout en étant très enracinée dans son expérience de Canadienne, dans la réalité, dans l'histoire canadienne, une thématique qui, à mon avis, peut toucher n'importe quel lecteur, de quelque pays qu'il soit, de quelque langue qu'il soit. Alors donc, pour moi, ça a été tout de suite un écrivain là de première grandeur, un écrivain à qui, par conséquent, j'ai voulu m'intéresser de plus près. Alors j'ai décidé d'écrire un petit livre sur elle, qui a été publié en 1975, et c'est dans la préparation de ce livre que j'ai eu l'occasion de la rencontrer. À ce moment-là, elle habitait Québec, la ville de Québec. Elle avait là un appartement depuis le début des années 50. Et depuis le début des années 50, précisément, elle menait une vie extrêmement retirée. Elle a eu, avant 1950, une vie, par contre, assez active. Entre autres, peut-être bon de rappeler ici qu'elle a gagné le prix Femina à Paris en 1947 avec son premier roman qui s'intitule Bonheur d'occasion, ce qui a fait d'elle quand même un personnage, une vedette, en tout cas pendant quelques années en France et pour longtemps ici. Mais à partir de 1950, donc, elle se renferme pratiquement chez elle et consacre l'essentiel de sa vie, sinon toute sa vie, à écrire. À écrire une œuvre extrêmement personnelle qui est nourrie abondamment de ses souvenirs. Et il est parfaitement normal que cette œuvre aboutisse, comme dernier ouvrage, à une autobiographie. Mais déjà, il y avait beaucoup d'éléments autobiographiques dans son œuvre antérieure. Alors donc, tout cela pour dire qu'elle était très, très fermée, très isolée. Je lui ai écrit, tout simplement, sans trop y croire, et elle a accepté de me recevoir. On a parlé beaucoup de ses livres. Elle a accepté de me confier un peu de matériel pour l'ouvrage que je préparais. Et on est devenu, comme cela, très liés. Enfin, j'avais, je ne sais pas, 25 ou 30 ans à ce moment-là. Elle en avait 60 ou 65. Et on a pris l'habitude de se voir très, très régulièrement. Je suis devenu en quelque sorte sa liaison avec le milieu littéraire. Comme elle sortait très peu, j'étais celui qui servait un peu de trait d'union entre elle et le monde littéraire montréalais et québécois. Alors elle ne voyait à peu près personne, mais elle avait beaucoup, beaucoup de monde dans sa vie par la correspondance, par les lettres. D'ailleurs, des correspondances qui étaient assez peu littéraires. Elle ne correspondait pas avec des écrivains, elle correspondait avec ses sœurs, de qui elle se sentait très proche, ses cousines, des amis qui n'étaient absolument pas du milieu littéraire.
Marie-Josée Raymond.
Je ne sais pas pourquoi, mais la couleur qui me vient à l'esprit en pensant à Gabrielle Roy, c'est bleu-gris, et ça doit être à cause de la couleur de ses yeux. Elle avait des yeux absolument extraordinaires, d'une espèce de bleu-gris, en même temps métallique et en même temps très profond. Des yeux extraordinaires. C'était une très belle femme. Je crois qu'on l'étonnait en lui disant ça, parce que moi, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire que je la trouvais absolument très, très belle, parce qu'en même temps, elle avait la peau très ridée à cause probablement du froid, du soleil et des intempéries dans notre pays qui sont très dures pour la peau. Mais ce regard absolument transparent, profond, d'une droiture implacable, ce qui fait que j'imagine l'ensemble des couleurs de son appartement dans les bleus-gris avec des taches de jaune, de soleil. C'est peut-être pas ça du tout, hein, mais c'est l'impression, moi c'est le souvenir que je le décrirais comme ça.
Et les vêtements, elle portait une robe, un pantalon?
Toujours une jupe, un chandail, une blouse, beaucoup d'élégance et de simplicité, encore les mêmes couleurs, brun, gris, bleu. Cette espèce de bleu-gris, pour moi, me semble même être dans ce qu'elle portait. Très simple, de la laine, de la soie, très simple, très...
Et les cheveux?
Elle avait les cheveux gris. Effectivement, gris-argent. Il y a vraiment cette espèce de dominance pour moi, de tout un camailleux de gris-bleu autour de Gabrielle Roy.
Des livres?
Oui, il y en avait, des bibliothèques, des livres, mais de façon pas simplement comme on trouverait dans la maison d'une femme intéressée par la littérature, mais il y en avait. Je suis pas allée dans son bureau. Alors, je ne peux pas vous dire si je ne me souviens pas être allée dans son bureau, mais dans cette espèce de grand salon avec les fenêtres qui donnaient sur le fleuve. Non, pas d'exagération du côté des livres, il y en avait, mais de façon équilibrée.
Maman finit par s'endormir, les mains sur sa jupe qui avait un vilain pli. Sa bouche s'entr'ouvrit comme elle dormait. Elle s'est mise à siffler un petit peu dans son sommeil. Maman demandait toujours qu'on l'éveillât quand elle sifflait, mais elle ne sifflait pas fort, et je l'ai laissée se reposer encore quelques minutes. Quelques rides ont commencé à sortir de son visage, sa tête a roulé un peu vers sa poitrine. J'ai vu que maman avait un deuxième petit menton. D'autres rides se firent au coin de sa bouche. J'ai vu que maman était vieille. J'ai eu peur. Je l'ai réveillée, je l'ai appelée. « Maman, maman !» Comme si elle était loin, très loin. Et en sursautant, sans pour ainsi dire me reconnaître, maman a demandé « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a ?» Puis elle m'a reconnue. Elle m'a dit « Ah, c'est toi, je rêvais. Tu as bien fait de m'éveiller. Je rêvais que j'étais devenue toute seule au monde, que je devais parcourir le pays pour retrouver mes enfants éparpillés dans toutes les provinces. »
J'ai jamais vraiment réussi à analyser son regard, mais je sais que pour moi, c'était ce qui était frappant, cette espèce de lumière qu'elle a eue d'ailleurs dans le regard jusqu'à la toute fin, alors que ces dernières années ont été très difficiles, elle était très malade, restait toujours ce regard presque de jeune fille, ce regard émerveillé, ce regard comme étonné devant les choses. Et je crois que c'est sa grande qualité d'écrivain. Ça n'est pas un écrivain érudit, ça n'est pas un écrivain intellectuel, c'est un écrivain étonnée devant le monde. Et cela, elle l'a gardé jusqu'à la fin. Je crois que d'ailleurs, peut-être qu'elle se retirait du monde, qu'elle se retirait des milieux littéraires, etc., précisément pour préserver cette flamme-là, pour préserver cet éblouissement, cet étonnement devant les choses, cette sorte de lumière. Et c'est là-dessus qu'elle a misé jusqu'à la fin pour écrire. Et je crois que jusqu'à son dernier livre, jusqu'à cette autobiographie-là, La détresse et l'enchantement, je crois que ce qui fait la qualité de son écriture, c'est d'abord qu'elle réussit à transmettre cet étonnement, à transmettre cette vibration qu'il y avait dans son regard, dans sa façon d'être.
J'ai eu le sentiment que c'était un écrivain du cœur, ce qui est un peu démodé, peut-être, mais pas du tout, un peu comme Colette était un écrivain du cœur. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ?
Tout à fait. D'ailleurs, elle était très proche de Colette. Elle se sentait très proche d'un écrivain comme Colette. Oh oui, écrivain du cœur, écrivain de l'émotion, je dirais. C'est peut-être effectivement un peu démodé, mais peut-être moins qu'on le croit. Il est sûr qu'elle est restée très loin d'une certaine évolution de la littérature contemporaine, une évolution vers l'abstraction, vers ce qu'on a appelé une certaine modernité, en tout cas, la littérature expérimentale. Non, ça n'était pas du tout son créneau. C'est tout à fait un écrivain de l'émotion, et je pense un écrivain à cet égard d'une qualité très rare. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'œuvres, au Québec, au Canada, et même, je dirais, ailleurs, il y a très peu d'œuvres qui arrivent à saisir à ce point l'émotion sans jamais verser, à mon avis, dans la mièvrerie.
Et quel est le souvenir d'amitié, peut-être, ou d'émotion que vous avez à raconter de votre relation avec elle? Quel est le plus beau moment que vous avez vécu avec elle?
Et sûrement, l'un des grands moments a été le jour où je suis arrivé à sa petite maison de campagne, qu'elle m'a demandé de venir dehors avec elle. On s'est assis sur une sorte de terrasse qui donne au-dessus du fleuve, et elle a commencé à me lire les premières pages de La détresse et l'enchantement, vers 76 à peu près. Les premières pages de son autobiographie qu'elle avait écrite dans un petit cahier d'écolier. Et moi, ce qui m'avait renversé, c'était bien sûr la beauté de ce texte, la sincérité mais qui n'est jamais, comment dire, qui n'est jamais indiscrète. Ça n'est pas, elle n'avoue rien de vraiment inavouable, mais bon, elle laisse parler directement sa sensibilité.
Quand donc ai-je pris conscience pour la première fois que j'étais dans mon pays d'une espèce destinée à être traitée en inférieur? Ce ne fut peut-être pas malgré tout au cours du trajet que nous avons tant de fois accompli, maman et moi, alors que nous nous engagions sur le pont provencher au-dessus de la Rouge, laissant derrière nous notre petite ville française pour entrer dans Winnipeg, la capitale, qui jamais ne nous reçut tout à fait autrement qu'en étrangère. cette sensation de dépaysement, de pénétrer à deux pas seulement de chez nous dans le lointain, m'était plutôt agréable quand j'étais enfant. Je crois qu'elle m'ouvrait les yeux, stimulait mon imagination, m'entraînait à observer. Nous partions habituellement de bonne heure, maman et moi, et à pied quand c'était l'été. Ce n'était pas seulement pour économiser, mais parce que nous étions tous naturellement marcheurs chez nous, aimant nous en aller ou pas, le regard ici et là, l'esprit où il voulait, la pensée libre. Et tels nous sommes encore, ceux d'entre nous qui restent en ce monde. Nous partions presque toujours animés par un espoir et d'humeur gaie. Maman avait lu dans le journal, ou appris d'une voisine, qu'il y avait solde chez Eaton, de dentelles de rideaux, d'indiennes propres à confectionner tabliers et robes d'intérieur, ou encore de chaussures d'enfants. Toujours au-devant de nous luisait au départ de ses courses dans les magasins l'espoir si doux au cœur des pauvres gens d'acquérir à bon marché quelque chose de tentant. En cours de route, maman m'entretenait des achats auxquels elle se décidait peut-être si les rabais étaient considérables. Mais toujours elle se laissait aller à imaginer beaucoup plus que ne le permettaient nos moyens. Elle pensait à un tapis pour le salon, à un nouveau service de vaisselle. N'ayant pas encore entamé la petite somme dont elle disposait pour aujourd'hui, celle-ci paraissait devoir suffire à combler des désirs qui attendaient depuis longtemps, d'autres qui poussaient à l'instant même. Maman était de ces pauvres qui rêvent, en sorte qu'elle eut la possession du beau bien plus que des gens qui l'ont à demeure et ne le voient guère. C'était donc en riche, toutes les possibilités d'achat intactes encore dans nos têtes, que nous traversions le pont.
D'autres moments, pour moi, qui sont très importants avec elle, c'est les moments où, ensemble, on retravaillait ses textes. On prenait, par exemple, pour La détresse et l'enchantement, pour Ses enfants de ma vie, son avant-dernier livre, et pour d'autres de ses textes, elle me les lisait. Ensuite, moi, je les faisais dactylographier, et ensemble, on passait de longues journées avec le dictionnaire, la grammaire et beaucoup de discussions. On passait des journées entières à refaire les textes, à changer tel mot, changer le rythme de telle phrase, chercher un adverbe ou un adjectif qui allait compléter le rythme de la phrase. Pour moi, c'est évidemment, j'aurais passé des journées entières à ce travail. J'ai rarement vu quelqu'un pour qui la littérature soit à ce point importante. C'était extrêmement important pour elle de terminer un texte, d'arriver toujours au bon mot, à la bonne phrase, parce que c'était son seul moyen de communication avec l'extérieur, et elle croyait à l'efficacité du type de communication que permettait la littérature. Elle pensait constamment à ses lecteurs. C'est comme si elle avait eu ses lecteurs autour d'elle. Et d'ailleurs, elle dit quelque part dans un de ses textes que pour elle, la première image de l'écrivain qui lui vient à l'esprit, c'est celle du conteur traditionnel, autour de qui sont rassemblés les auditeurs, mais très proche. Au fond, elle aurait souhaité pouvoir lire dans le regard de ses lecteurs, pouvoir à chaque fois la réaction qui pouvait être la leur à telle ou telle phrase, à telle ou telle image, à tel ou tel personnage. Il y avait, au fond, quelque chose d'un peu maternel dans sa façon de concevoir la littérature. Elle était vraiment comme une mère qui raconte une histoire le soir à ses enfants avant de les coucher. Et ça, d'ailleurs, elle l'a dit à quelques reprises, et ça correspondait vraiment à quelque chose de très profond pour elle.
Gabriel Roy.
Dès la première lecture, mon père, je le pense, a dû connaître cette lettre par cœur. Et peut-être n'arriva-t-il jamais à en chasser les mots de son esprit. Il eut quelques jours de révolte, où poussé par ma mère et par des amis, il tenta de faire appel au gouvernement. Mais il n'avait plus assez de confiance en lui-même pour entreprendre les visites, les plaidoyers auxquels il aurait fallu consentir. Et peut-être recula-t-il surtout devant l'idée monstrueuse pour lui d'avoir à faire valoir ses mérites, sa vie. Car dès cette lettre, non seulement il n'eut plus confiance en ce qu'il était, en ce qu'il pouvait, mais il perdit jusqu'au sentiment d'avoir jamais été utile. Toutes les belles choses accomplies lui furent en quelque sorte enlevées par cette lettre. Et il continua à vivre en portant chaque jour sur ses épaules la croix de cette défaite. Heureusement, la nuit lui était douce encore. Quand elle venait, si simple et parfumée, mon père l'accueillait comme une visite. Le bien-être n'était-il que physique? Ou cette heure sur son âme avait-elle encore assez d'emprise pour y ressusciter l'espoir du bonheur? Quoi qu'il en soit, le phénomène était si connu de chacun de nous que, pour solliciter quelques permissions de mon père, nous attendions, comme maman le conseillait, qu'il fît noir.
Elle a toujours craint de devenir un personnage public. Elle a refusé toujours de devenir un personnage public, sauf à une seule occasion. Quand le général de Gaulle est venu au Québec et qu'il s'est prononcé en faveur du Québec libre, elle a dénoncé publiquement le général de Gaulle parce qu'elle était pas, ses opinions politiques n'étaient pas, n'allaient pas du tout dans ce sens-là. Et elle l'a beaucoup, là, je pense, beaucoup regretté parce que ça a donné lieu à un débat. Et à partir de ce moment-là, ça c'est en 67, elle s'est encore plus retirée. Et elle voulait que ses livres soient publics, que son œuvre serve de communication, mais que sa personne soit retirée, soit absente. Non seulement elle donnait peu d'entrevues, mais elle donnait très peu de photographies. C'était toute la peine du monde pour obtenir des photographies d'elle. Il fallait s'y prendre à peu près trois mois à l'avance. Elle n'acceptait que certains photographes et elle était pas très commode pour les gens des médias. Elle n'a jamais eu d'enfant. Je pense que c'était... Enfin, il y a une question de choix personnel, d'une chose dont je n'ai jamais discuté avec elle, mais je crois que ça aurait probablement été assez difficile, étant donné la vie qu'elle a menée, à une époque, je le répète, où très, très peu de femmes menaient la vie qu'elle a menée dans les années 40. Là, c'était pas facile pour une jeune femme de devenir journaliste, de vivre par elle-même, de partir en reportage dans le pays. Il y en avait très peu qui faisaient ça. De devenir écrivain aussi, c'était pas du tout facile. Donc, elle n'a pas eu d'enfant, mais par contre, elle a écrit un livre, un de ses derniers livres, qui s'appelle « Ses enfants de ma vie ». Alors, ce ne sont pas les siens, mais elle a été institutrice et a considéré finalement que les enfants auxquels elle a enseigné sont devenus un peu les siens, si bien que ces enfants-là ont beaucoup de place dans son œuvre. Dans tous ses livres, il y a beaucoup d'enfants et je pense que ça repose toujours sur la connaissance qu'elle a eue des enfants avant de devenir écrivain au moment où elle était institutrice.
Simone Bussière, éditrice et amie.
Nous allions dans un petit chalet que j'avais à ce moment-là, à quelques kilomètres du centre-ville, ici, à un pauvre petit cabanon, mais où on avait du plaisir, où l'hiver, on faisait de la raquette, on faisait de la motoneige. Et en rentrant, on buvait un verre de vin chaud, les pieds dans le fourneau du poêle. Et on parlait de tout et de rien, mais surtout, Gabrielle parlait surtout de la nature. Elle racontait beaucoup, beaucoup. Elle avait un art de raconter qui était unique. Là où elle était, personne ne parlait à peu près. Là, j'amplifie, mais enfin, si elle avait quelque chose à raconter... Oh, il n'y avait vraiment qu'elle pour raconter avec cet art, sans emphase, un charme qui captivait complètement. Sans être cabotine, là, dans le sens vilain du mot, elle avait un vrai plaisir à savoir qu'on l'écoutait, et qu'elle savait qu'elle charmait et tout. Elle était assez petite, elle était mignonne, pas très grande, assez, pas très grosse, pas forte, rien. C'était une petite madame, mignonne. Et puis, avec l'attrait qu'elle avait au point de vue intellectuel, ben, peut-être évidemment qu'elle même disait, je ne sais pas si je n'étais pas Gabrielle Roy, si on m'écouterait comme on m'écoute. Elle était consciente du fait que la célébrité pouvait peut-être influencer, changer l'attitude des gens à son endroit. Elle riait. Mais si j'avais accoiffé sa façon d'être du titre du dernier livre qu'elle a fait, qui a été publié après sa mort, La détresse et l'enchantement, je dirais que pour elle, pour Gabrielle, la vie était plutôt l'enchantement et la détresse.
Qu'est-ce qu'il y a, Azarius?
T'es curieux, sa mère.
Prépare les enfants. Qu'est-ce que tu me chantes, là?
Je t'ai dit de griller les enfants. On part demain.
On prend une journée de congé. On s'en va voir ta parenté.
Fais-moi pas des jouets, là.
C'est pas des jouets, là. J'ai le troc. On part demain matin.
Ça fait longtemps que l'envie te ronge d'aller voir ta parenté.
Ben, ça y est.
Sais-tu quoi encore?
Les sucres sont commencés.
Azarius, ça fait 7 ans. Mais son père, as-tu pensé à la dépense?
Ben oui, tout est arrangé. Le troc me coûte rien.
Je peux pas aller leur montrer les enfants en guenille.
Ben, t'as pas le temps d'ici à demain de rapporter quelques affaires. Je vais te donner un coup de main.
Toute la littérature québécoise de cette époque, enfin traitant de cette époque-là, et j'avais relu Bonheur d'occasion, et j'ai été reséduite, parce qu'évidemment, quand on est à l'école, on lit, parce que c'est un des classiques de la littérature canadienne, mais là, je l'ai relu par plaisir.
Marie-Josée Raymond, productrice de films.
Et j'ai été tout à fait séduite, et je me suis dit, comment ça se fait qu'on n'a pas fait de film encore? Alors, je me suis renseignée et j'ai réalisé que peu de temps après la parution du roman en 1945, les Américains, Universal, avaient acheté les droits de film sur Bonheur d'occasion, ce qui était quand même assez exceptionnel puisque c'est son premier roman. C'était bon, quelqu'un qui venait du nord, du Manitoba, qu'un major américain s'intéresse à ce roman-là, c'était déjà une réussite assez exceptionnelle. Ça m'a pris presque un an avant de les convaincre de me revendre les droits, parce qu'il y a une politique quand même de, bon, le prix est amorti, le sujet ne s'est pas fait, mais comme ils ont les droits à perpétuité, ils n'ont pas d'intérêt. En général, c'est très difficile de racheter des droits. Mais probablement, on les... convaincant que pour notre héritage culturel ici, c'était très important. Universal ont cédé donc les droits. Et après ça, je suis allée voir Gabrielle Roy pour donc lui dire maintenant que j'ai les droits, je veux adapter, je veux discuter avec vous des possibilités d'adaptation, voir ce que vous en pensez et tout. Alors, je l'ai rencontrée à Québec. Parce que
chez elle,
oui, à Québec, était très, c'était une personne très privée, qui ne voyait très peu de monde à l'extérieur, mais je pense quand même qu'elle avait eu une grande déception du fait que Bonheur d'occasion ne s'était jamais fait en film. Et que, bon, que je lui dise quand même que j'avais eu la persévérance de racheter les droits. Donc elle m'a reçue chez elle. On a parlé toute la journée des différentes façons d'adapter, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'elle m'a dit qu'elle ne voulait pas s'impliquer.
Sais-tu que c'est pas rien pour te rendre le foulard que je suis venue à ta rencontre?
Dans tes bras.
C'était aussi pour t'inviter à la maison demain.
Reste avec moi, non.
Tu vas venir?
Ne t'en vas pas. Quand je sens sur ma peau une promesse de caresse, je succombe à l'ivresse d'être ta maîtresse.
Et ma je t'aime, Jean. Ça n'a pas de bon sens, c'est pas de ma faute. Mais je t'aime tellement.
Pour t'offrir ma seule.
Je pense toujours à toi. Juste à toi.
Quand le film a été terminé et qu'on a été invité à le présenter en première internationale au Festival de Moscou, j'ai essayé d'organiser pour elle une projection dans un petit cinéma près de sa maison de campagne avant de partir. Mais là encore, sa santé était elle-même. Les téléphones que j'avais à ce moment-là étaient assez particuliers parce que je commençais, elle avait presque pas de voix. Et parce que c'est une personne très passionnée, on se mettait à parler de tas de choses et à la fin, elle retrouvait une énergie même dans le ton de sa voix qui était qui me montrait la faiblesse. Moi, je voulais pas y croire. Alors quand elle me disait, vous savez, je suis trop fatiguée, mon attitude, c'est non, vous allez voir, ça va aller bien, vous allez voir le film, ça va vous. Bon, en plus, son médecin lui avait recommandé d'éviter tous les chocs, quels qu'ils soient, et disait pour moi, après 40 ans, après avoir pensé vraiment que le film se ferait, qu'il ne se fasse pas, que de nouveau on travaille à ce projet-là pendant, parce que entre le moment où je l'ai rencontré, que j'ai commencé à écrire le scénario et la fin du tournage et du montage, c'est quand même passé plus de 2 ans, si c'est pas 2 ans et demi, 3 ans. Donc, pour quelqu'un qui est pas habitué à ces délais-là, on peut même s'imaginer est-ce que ça va se faire. Et il y a quand même quelque chose d'assez symbolique. Elle est morte au moment où le film était présenté à Moscou. Si on calcule un peu le décalage d'heure, c'est à toute fin pratique au même moment. J'ai trouvé que, bon, peut-être une espèce de satisfaction à savoir que son film était vu. Ça y est, c'est fait. Et je dois dire que à Moscou, notre interprète, qui était merveilleuse, a vu que j'étais assez bouleversée par cette annonce qui nous venait de l'ambassade, que Gabriel Roy venait de mourir, et que, bon, de toute façon, c'était impensable pour moi d'être revenue à Québec à temps pour le service religieux ou quoi que ce soit. Et notre interprète m'a amenée le soir à une messe dite dans la seule église de Moscou qui n'a jamais fermé depuis, je crois, le 12e siècle, et qui s'appelle la Madone du Bonheur d'Occasion.
Alors, vous avez rencontré son mari, évidemment.
Oui, en fait, j'ai très peu de choses à dire sur son mari. Je le connais peu, même si je l'ai rencontré à plusieurs reprises. J'ai un peu l'impression qu'elle l'avait choisi parce qu'il était assez inexistant. Et je pense que c'est pas un jugement porté sur l'homme, mais sur elle, sa décision de se consacrer assez entièrement à son écriture. Je pense que elle a décidé assez tard dans sa vie d'écrire. Et je pense qu'à partir du moment où elle a décidé d'écrire, la décision était globale. Ça a impliqué pas de vie amoureuse passionnée. Je suis sûre que c'était pas une relation passionnée entre elle et son mari. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'était un instinct. Il était très gentil, son mari, vraiment très gentil. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'influence du tout sur ce qu'elle a écrit ou même sur sa vie, à part que peut-être de façon très émouvante d'en prendre soin. Je pense qu'il devait avoir conscience d'une forme de grandeur chez elle et que probablement avoir le même respect, la même Probablement que lui aussi a mis une partie de sa vie au service de l'œuvre de Gabrielle Roy. Elle n'a pas eu d'enfant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans son choix qui l'assurait qu'elle n'aurait pas d'enfant, donc qu'elle n'aurait pas à partager sa vie entre l'écriture et les enfants. J'ai l'impression aussi que la mère, la présence de la mère dans toute sa littérature est telle que je me demande si elle-même avait le goût d'assumer ce rôle-là et que si sa décision d'épouser quelqu'un comme l'homme qu'elle a épousé, de ne pas avoir d'enfant, en était pas une aussi de rejeter quelque chose qu'elle décrit très bien, entre autres dans ses mémoires et dans tout ce qu'elle a écrit. La mère est toujours assez particulièrement présente, très victime, mais en même temps très courageuse, très ambiguë. Je sais qu'à un moment, j'ai lu un livre d'enfant qu'elle a écrit où le personnage de la mère chat était tel que, dans le fond, entre la mère chat et Rosanna, dans Bonheur d'occasion, il n'y avait pas de différence. Je retrouvais les mêmes afflictions maternelle et en même temps la même grandeur, le même courage. Les personnages d'hommes sont assez inexistants finalement, ou assez faibles, ou assez... Même dans Bonheur d'occasion, Azarius est un homme comme on en connaît beaucoup, mais c'est pas un homme inspirant, déterminant. Jean Lévesque est très énigmatique. Il est très séduisant, mais j'ai l'impression qu'il y avait... Il y avait quelque chose, là. Quand on lit ses mémoires, c'est sûr que son père aussi n'a pas joué un énorme rôle dans sa vie. C'est certainement son attachement à sa mère qui est prépondérant. Et je pense que ça se retrouve, là.
Si Dieu me permet de revoir Odile, dit maman, je peux dire que j'aurai contenté tous mes désirs. Je ne sais pourquoi, je m'imaginais encore que c'était une petite fille que partout nous cherchions. Enfin, à la porte d'un couvent, maman a demandé « Pourriez-vous me laisser voir Odile ? Pardon, sœur Étienne du Sauveur. C'est de la part d'une très ancienne amie d'enfance. Mais ne lui dites pas. » demanda maman à la sœur portière. J'aimerais tellement voir si Odile... Pardon, si sœur Étienne du Sauveur va me reconnaître. La sœur portière a mis un doigt sur ses lèvres. Elle a eu un joli sourire pour faire entendre que le secret ne serait bien observé. Et sans bruit, elle partit chercher sœur Étienne du Sauveur. Nous étions, maman et moi, assises sur des chaises qui, à chacun de nos mouvements, glissaient un peu sur le parquet brillant. Puis, dans l'embrasure de la porte, une religieuse au visage pâle, aux yeux faibles, mais ils étaient gris et non pas noisettes, nous regardait. Maman m'avait recommandé « Ne dis rien, toi, ne gâte rien. Laisse-moi m'avancer seule vers Odile. » La religieuse m'effleura d'un bon regard doux. Elle me sourit en passant, puis elle regarda maman. « Odile !» a appelé maman comme pour éveiller quelqu'un qui dort. La religieuse frémit à ce nom. Ses deux mains se portèrent vers le crucifix pendu à son cou. Elle serra la croix à deux mains. Puis elle s'avança vers maman. Elle la prit par les deux bras, la conduisit près d'une haute fenêtre dans le fond du parloir. Elle écarta les rideaux pour qu'il fît un meilleur jour dans la pièce, et elle se mit à scruter le visage de maman avec une sorte de disposition à la reconnaître qui était déjà très gracieuse. Ils disent que les religieuses renoncent aux affections de ce monde. Depuis que j'ai vu le visage de sœur Étienne du Sauveur, je crois qu'elle n'arrive pas toujours à tant de triste perfection. Me reconnais-tu, Odile ? dit maman d'une petite voix mince qui tremblait de crainte joyeuse. Alors, le regard de la vieille religieuse m'a fait mal, tant il se mit à chercher loin dans le visage de maman. Ce devait être difficile, dans un vieux visage ridé comme celui de maman, de retrouver une petite fille à longues nattes et à joues pleines. La vieille sœur peinait tellement que son menton, ses lèvres, ses mains en étaient agités. Elle finit par regarder surtout les sourcils très arqués de maman, et on aurait dit qu'il lui disait quelque chose. Petit à petit venait dans ses yeux une lueur d'abord incrédule. Puis sœur Étienne a jeté comme une plainte. « mon Dieu, serais-tu ma petite Evelyne ?»
Michel Champagne, conservateur au Musée de Québec.
Comme nous habitons le même quartier, on se croisait de temps en temps sur la rue, on placotait. On placotait est un canadianisme, ça veut dire parler. Et souvent, pendant la belle période, au printemps, souvent je la croisais dans le parc et nous parlions, on se soyait sur un banc, on pouvait causer pendant une heure. Moi, je me disais, c'est plus important de perdre une heure avec Gabrielle Roy que d'aller travailler au musée. Et c'est comme ça que des liens se sont tissés entre nous pendant 25 ans. À part de ça, l'hiver, elle allait passer des vacances dans le sud des États-Unis ou encore en Provence. Elle adorait la Provence. Et souvent, parce que c'était en même temps pour dépenser ses droits d'auteur en France. Et elle revenait, disons, au début du printemps. Elle passait un mois à Québec, puis le reste de tout l'été, elle passait à sa maison de campagne, ici dans Charlevoix, à Petite-Rivière-Saint-François. Et c'était son univers. Et là, elle écrivait beaucoup. Et ça, personne ne pouvait aller à Petite-Rivière sans y être invité, même son mari. Elle était chez elle. Berthe, c'était sa voisine. Elle s'appelle Berthe Simard. Berthe est devenue la grande amie de Gabrielle. Et c'est Berthe qui était la première lectrice des manuscrits de Gabrielle. Puis aussitôt qu'à un moment donné, après une lecture, Berthe levait l'œil, faisait un signe inconnisant. Là, Gabrielle était très, très inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez pas aimé? Qu'est-ce que vous avez aimé? En fin de compte, Berthe, c'était en même temps l'amie, la confidente de la personne la plus sincère, la plus humaine, la plus... C'est une femme aussi fantastique, Berthe Simard. Dans, à Petite-Rivière, il y a des grandes, grandes fenêtres qui donnent sur la mer, qui donnent sur le paysage. C'est magnifique. Puis là, sur une petite table, Gabrielle écrivait ses livres. Puis une chose un peu curieuse, il y a beaucoup de balançoires. Et elle se balançait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, à ce moment-là, quand elle avait une idée, elle partait, puis elle rentrait dans le chalet pour écrire ce qu'elle avait imaginé. Et si elle arrivait à sa table de travail, puis elle avait perdu l'idée, ça veut dire que c'était pas bon. Elle retournait, on pouvait faire ça 100 fois dans l'avant-midi.
Je sommeillais d'un rêve à l'autre. Parfois, j'emportais dans mon rêve inconscient le tissu fin et léger des rêves éveillés. Le bercement de mon hamac aidait la trame de mes contes. N'est-ce pas curieux? Un mouvement lent et doux, et l'imagination est comme en branle. Docile, docile au moindre départ, un petit bercement lui suffit. Il y a une inquiétude, on dirait, qui s'en va de nous lorsque nous sommes en mouvement, sans qu'il nous en coûte d'effort. Peut-être ce repos n'est-il connu que de ceux-là qui ont appris à se bercer. Mais parfois la corde glissait de ma main détendue. Le vent se taisait, un souffle chaud passait sur moi. J'étais comme dans la mer des sargasses où les voiles tombent.
Oh, pourquoi? Pourquoi c'est si beau ce qu'elle écrivait? C'est tellement simple.
C'est ça, je parle, c'est d'une langue très simple à la portée de tous. Et c'est difficile de faire simple, c'est ça. Cette espèce d'austérité des mots, là, de ce choix-là, ce dépouillement. Et c'est ça que je trouve ça tout à fait extraordinaire. Mais ça prend toute une vie pour en arriver à ça. On veut tous arriver à ce dépouillement-là, mais c'est en travaillant. Elle travaillait énormément, elle était très exigeante pour elle, pour ses écritures. Et souvent, la petite rivière a servi de décor, je pense à cet été qui chantait. Ces petites rivières, ces cerisiers, les oiseaux viennent bouffer le cerisier à une demi-heure. Bon, mais ça, c'est chez elle. La vache d'Aimé, c'est son voisin qui est du cultivateur, Aimé Simard. Il y a toutes sortes d'anecdotes. À tout un bestiaire, à toute une famille. La chatte, c'est la chatte Courtecue. Elle a écrit une nouvelle qui s'appelle Courtecue, l'histoire de la chatte, mais c'est la chatte du voisin. Puis ce chat-là a réellement existé, puis je l'ai vu, puis Courtecue, cette chatte-là, ramassait tous les petits chats abandonnés par leur mère, puis parce qu'elle avait perdu les siens. Et c'est un petit peu sauvage, mais c'est tout l'univers de Gabrielle, des choses simples, proches d'elle. Elle savait comment se restait d'aider d'écrire d'une façon pas mal intéressante, très juste, très très vrai. C'est ça, je pense que ce qui attire les livres dans ces livres, c'est l'authenticité. Puis cette simplicité de langage, c'est pour ça qu'on l'aime aussi.
Est-ce qu'elle écoutait de la musique?
Oui, elle aimait la musique, la musique classique. Elle avait une assez bonne petite discothèque dans sa maison.
Qu'est-ce qu'elle écoutait?
Mozart, Bach, ces grands auteurs-là, Tchaïkovski. Mais elle aimait les grands auteurs. Elle préférait lire. L'écriture était davantage son univers. Ça, c'est, les Russes l'intéressaient aussi. Comme en littérature, tu sais, Tolstoï, c'était un de ses auteurs. Toute cette littérature russe-là, là, ça, parce qu'elle avait connu dans l'Ouest canadien, son père était un agent de colonisateur. Puis il y a toutes les sectes russes, là, les Doukhobors, par exemple, puis les Ukrainiens, qui sont venus s'établir au Canada. Donc, elle a eu connaissance de beaucoup de ces peuples russes-là, là, slaves plutôt. Et ça, tout ça transparaît, ressort 40 ans après dans son œuvre. Puis ensuite de ça, elle a écrit aussi sur les Chinois. Il y a beaucoup de Chinois qui venaient s'établir, gagner de l'argent sur la côte ouest. Puis à un moment donné, ils sont rentrés un petit peu d'inter. Il y avait des restaurants chinois, des blanchisseurs là, qui lavait les chemises, tout ça. Puis on en parle souvent dans ses nouvelles, dans plusieurs de ses livres. Il y a toutes des histoires de race. Elle était très attirée par des gens d'une autre race. Puis elle parlait très bien l'anglais aussi. Parce qu'elle avait fait ses études au Manitoba en français et en anglais. Donc, elle possédait la langue de Shakespeare. Elle lisait Shakespeare. Elle aimait... elle a joué même Shakespeare là-bas. Puis, même à Londres, elle essayait d'en faire une carrière. Mais elle n'avait pas la santé pour faire une carrière de comédienne. Parce que c'est très, très, très dur, très exigeant. Puis, servir de bonheur. Puis, apprendre des rôles par cœur. Puis, des fois, dans les conditions des tournées. Je pense qu'elle n'avait pas la santé pour faire ça. Donc, l'écriture était plus... c'est plus à sa portée, dans le sens qu'elle avait peut-être la santé pour écrire. Tu sais, c'est exigeant, écrire, c'est pas ça que... Mais, en fin de compte, c'est pas exténuant. On t'a pas besoin de faire de tournées, des trucs comme ça. Donc, c'était, je pense que c'était réellement sa vocation. Puis déjà, très jeune, les religieuses à l'école lui disaient qu'elle avait du talent pour écrire. Puis elle a emmagasiné. Puis tout ça a donné les beaux livres qu'elle a publiés. Mais j'aurais aimé ça, par exemple, que La détresse et l'enchantement, il y a eu une suite. Son opinion à elle sur sa célébrité, les films qu'on a fait sur avec son œuvre, son prix Fémina, tous les gens qu'elle a rencontrés à Paris. Elle a rencontré des sommités littéraires. J'aurais aimé ça, à un moment donné. Elle nous en parlait, mais j'aurais aimé ça le lire.
Je dois dire, la dernière fois que je l'ai vue chez elle, bon, après, je lui ai parlé très souvent au téléphone, mais ça a été cette espèce de mélange, de désespoir de sa part, de penser qu'elle finirait pas. Une espèce de fatalité qui fait que quand je suis sortie de chez elle dans l'ascenseur, mais vraiment je me suis mise à pleurer parce que c'était effectivement très très émouvant. Probablement à cause du fait que c'est vraiment une femme qui jouait pas sur les émotions. Donc quand elle m'a dit maintenant ne m'appelez que pour des choses très importantes parce que je dois terminer ce que je fais, j'ai eu là l'impression que probablement qu'elle sentait que la mort était très proche.
Les petits arrivèrent presque gelés, les joues en feu. Par précaution, je frottai leurs mains avec des poignées de neige. Je les aidai à se défaire de leurs vêtements raidis sur eux et je les gardai un bon moment juste au-dessus de la bouche de chaleur. Ensuite, ils sont venus à mon pupitre avec leurs livres de lecture, leurs cahiers. J'ai su plus tard qu'ils avaient fait ce matin-là une grande colère à leurs parents qui voulaient les empêcher de faire à pied les 2000 jusqu'à l'école. Mais nous, ensemble, nous avions chaud. Les deux petits répétèrent les mots de leur leçon. Tout près de nous, la tempête, comme un enfant incompris, pleurait et trépignait à la porte. Et je ne le savais pas tout à fait encore, nos joies mettent du temps parfois à nous rattraper. Mais j'éprouvais un des bonheurs les plus rares de ma vie. Est-ce que le monde n'était pas un enfant? Est-ce que nous n'étions pas au matin?
C'était Émotions et souvenirs, Détresse et enchantement, Gabriel Roy. 7 des titres de Gabriel Roy sont disponibles chez Flammarion, Bonheur d'occasion, La montagne secrète, Alexandre Chênevert-Caissier, La petite poule d'eau, La route d'Altamont et La rue des Chambeaux. Ses mémoires, La détresse et l'enchantement, parus en 1986, sont publiés aux éditions Arléa. Les textes lus par Thérèse Crémieux sont des extraits de « Les enfants de ma vie »,« Rue des Chambeaux »,« La petite poule d'eau »,« La détresse et l'enchantement ». Ont participé à cette émission Luce Guilbeault, Anne-Claire Poirier, François Ricard, Simone Bussière, Marie-Josée Raymond et Michel Champagne. C'était une émission de Nicole Lise-Bernem, réalisation André Petit et Monique Prat.